Wagon Livre, votre émission littéraire. Wagon Livre, un voyage au cœur de l'actualité littéraire, présenté par Yannick Petit. Wagon Livre, c'est tous les samedis de 11h à midi sur Radion.
Heure passée de quelques secondes, un très grand bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Wagon Livre, votre émission littéraire. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour la suite du compte-rendu de la 7e édition de Tous Historiques qui s'est tenue le 24 août dernier. C'est une manifestation organisée par l'association Tous Historiques avec le soutien de la librairie Joffac de Toussy et de l'association du Vieux Toussy. Alors cette 7e journée du livre d'histoire a rassemblé une quarantaine d'auteurs, dont des bédéistes et des auteurs jeunesse. Elle s'est tenue dans le cadre exceptionnel de l'église fortifiée de Toussy. Et cette année, le salon était présidé par Patrice Duhamel, journaliste et auteur d'un essai intitulé « Le chat et le renard, présidents et premiers ministres, deux ou trois choses que je sais d'eux ». C'est disponible en librairie aux éditions de l'Observatoire. Et puis il y avait une invitée d'honneur, c'est l'éditorialiste de France 2, Nathalie Saint-Cricq, venue dédicacer son dernier roman, « L'ombre d'un traître » aux éditions de l'Observatoire. Avant de vous donner le sommaire de votre wagon-livre, je tiens à saluer et à remercier Anne-Cécile et Jean-François Faure de la librairie Joffac de Toussy pour leur confiance et leur accueil chaleureux, ainsi qu'une mention particulière à mes amis Sylvie et Jean-Jacques Ricard. Et je salue également tous les bénévoles souriants et extrêmement chaleureux qui nous ont accueillis le 24 août dernier pour cette 7e journée du livre d'histoire à Toussy. Alors je vous propose aujourd'hui d'entendre un certain nombre de reportages que nous avons enregistrés sur place, notamment un reportage avec Mathieu Jaja, historien conférencier qui a dirigé durant plusieurs années le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Il signe un essai historique, Dunkerque, la dernière forteresse nazie 1944-1945 aux éditions Passé Simple. Et il signe également un livre sur Louis de Funès, La traversée du siècle aux éditions Privas. Louis de Funès qui a joué dans 18 pièces de théâtre et qui a tourné 157 films, dont 45 dont il occupa le premier rôle. Louis de Funès qui nous a quittés à l'âge de 69 ans en 1983. Nous entendrons également Clotilde Chamussy et Thomas Pacotte pour 49 petites histoires dans l'histoire de l'Antiquité. Et ce jeune couple signe un brillant essai qui a connu d'ailleurs un grand succès, La grande histoire du climat, c'est aux éditions Robert Laffont, avec ce sous-titre plutôt réjouissant et optimiste, comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années. Nous tendrons notre micro à Emmanuel Maury pour le roman secret de Chantilly, 1000 ans d'histoire de France aux éditions Perrin. Et je vous propose d'ouvrir notre émission avec Marie-Hélène Bellac qui signe aux éditions Perrin une biographie consacrée à Louise Michel.
Je m'appelle Marie-Hélène Bellac, j'ai enseigné pendant 40 ans à différents niveaux. Et je suis spécialiste surtout de la période révolutionnaire et du 19e siècle, même si j'ai écrit beaucoup d'autres ouvrages. Donc mon dernier ouvrage concerne Louise Michel, L'égérie de l'anarchisme. C'est une femme sur laquelle beaucoup de gens ont écrit, mais des gens plutôt engagés au Parti communiste, au Parti socialiste, aujourd'hui chez les libertaires, puisque en fait c'est un personnage qui est très marqué politiquement. Et moi j'ai voulu en tant que historienne faire un travail comme j'en ai l'habitude, c'est-à-dire reprendre toutes les archives, enfin toutes, c'est bien bien grand mot parce qu'il y en a beaucoup, surtout qu'elle-même écrivait beaucoup, et revisiter cette personnalité qui est extrêmement attachante et par certains côtés intrigante.
Alors, elle est née à Vroncourt-la-Côte en 1830. De quel département vient-elle alors ?
Alors, en fait, c'est la Meuse. C'est tout près de Don Rémy, Jeanne d'Arc. D'ailleurs, on l'a parfois comparée à une Jeanne d'Arc. En fait, elle est née là parce qu'elle est née dans un château où les châtelains étaient en fait des nobles qui avaient fui la Révolution à Paris quand c'était devenu très mauvais. Ils avaient acheté ce vieux château qui était en mauvais état. Et ensuite, les enfants s'étaient maintenus. Et en fait, elle est la fille sans doute du châtelain. On a dit le fils du châtelain, plus probablement le châtelain lui-même, et d'une servante. Alors à l'époque, quand une servante faisait un enfant, en général, on la chassait avec l'enfant. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ceux qu'elle a appelés le grand-père et la grand-mère, c'est-à-dire le châtelain et la châtelaine, l'ont vraiment adoptée comme leur petite fille. Et ils l'ont élevée dans ce château en toute liberté, à côté des animaux, des plantes, mais aussi en lui apprenant à lire, à écrire, à compter, à faire de la poésie, à lire tous les grands auteurs du XVIIIe siècle.
Elle a une solide éducation, une bonne culture littéraire.
Oui, elle a une très bonne culture littéraire et à 20 ans, elle correspondait déjà à Victor Hugo, auquel elle envoyait ses poèmes. C'est-à-dire qu'elle avait vraiment un bagage.
Alors, elle devient rapidement institutrice.
Oui, alors, quand ses grands-parents meurent, elle se retrouve en fait renvoyée à sa condition de bâtarde et elle décide d'être institutrice. C'était finalement ce qui lui convenait le mieux parce que poète, ça ne permettait pas de gagner sa vie. Donc, elle a passé les examens de l'époque et elle est devenue institutrice, d'abord dans son village et dans les villages environnants. Et puis ensuite, en fait, elle est montée à Paris parce que c'est là qu'elle voulait être. Et à Paris, elle a d'abord été sous-maîtresse et on dirait aujourd'hui auxiliaire d'enseignement. Puis elle a finalement fondé une école à Montmartre. C'est pour ça qu'elle est aussi l'égérie de Montmartre. Et elle avait une soixantaine de fillettes au moment de la Commune, en 1870. Et là, elle a fréquenté les milieux républicains et les milieux socialistes.
Est-ce que son ambition est plus politique que littéraire à ce moment-là ?
Alors, non. Et je vais même vous dire que toute sa vie, ça va vous étonner, mais pour elle, elle était poète. Pour elle, c'était ça qui était important et qu'elle revendiquait. Et elle a énormément écrit. Pas tellement des poésies, mais des romans, des ouvrages plus ou moins théoriques. Mais c'est une littérature énorme, énorme, énorme. Non, pour elle, c'est ça. Et elle publiait, elle a tout le temps écrit. Et elle trouvait qu'elle aurait dû être connue, gagner plus d'argent avec ça. Donc le politique n'a pas pris le pas sur son idéal. Et elle a correspondu avec Hugo jusqu'à la fin de la vie de Hugo. C'est vraiment, c'était ça qui l'a motivé le plus.
Quels sont les écrivains de l'époque qu'elle côtoie, qu'elle rencontre ?
En fait, elle rencontre peu d'écrivains, je vous dis, à part Victor Hugo, parce que donc pendant il y a la guerre de 70, la Commune, en fait, elle côtoie plutôt des hommes politiques, justement, Blanqui, qui était vraiment le révolutionnaire. Type, si je puis dire, des gens comme Clémenceau, qui était maire du 18e, où elle avait son école. Et comme elle prend les armes pendant la Commune, ce qui était quand même très original, les femmes étaient plutôt infirmières, elle va être donc amenée à Versailles avec les autres communards et elle est condamnée à la déportation en enceinte fortifiée en Nouvelle-Calédonie. Donc là, elle passe 7 ans et demi en Nouvelle-Calédonie, où elle lit beaucoup, où elle fait des expériences, par exemple, pour vacciner certaines plantes, où elle s'intéresse aux animaux, où elle s'intéresse à la population locale, du moins les gens avec qui elle peut être en contact, où elle tente d'écrire un vocabulaire kanak. Et au bout de 5 ans dans l'enceinte fortifiée même, elle part à Nouméa, où là elle peut elle continue à écrire, mais aussi ouvrir une école. Elle écrit des légendes kanak qu'elle fait publier dans le journal local. Et c'est quand donc le gouvernement français décide d'amnistier les communards, donc qu'elle rentre avec les autres. Elle voulait être la dernière à rentrer, mais elle est rentrée plus vite parce que sa mère était malade. Donc elle est rentrée en France en 1880.
Et est-ce que c'est une femme qui a été prisée par l'épisode du bagne en Nouvelle-Calédonie ?
Alors non seulement c'est une femme qui n'a pas été brisée, mais c'est une femme qui a puisé une force énorme. Alors il faut bien savoir que le bagne, c'est le bagne, mais attention, elle était avec les politiques, c'est-à-dire que c'était une enceinte, même pas. Ils étaient entre la mer et les sauvages, comme on disait. Donc les députés disaient très sérieusement qu'ils ne pouvaient pas s'échapper. En fait, ils avaient des cabanes, on leur donnait de la viande, de la nourriture, etc. Ils devaient cuisiner eux-mêmes. Elle recevait des livres, elle communiquait, elle écrivait beaucoup en France. Elle recevait également des lettres, notamment de Clémenceau, qui l'a beaucoup suivie. Et elle n'a pas été brisée. Au contraire, elle en a pris une force énorme, d'autant qu'elle a été impressionnée par la nature tropicale. Et elle a trouvé là une sorte de métaphore sur la Révolution. Pour elle, la Révolution, ça devait être comme quand il y avait un cyclone, où tout s'écroulait, où tout se brisait. Et elle disait, le vieux monde devra s'écrouler de la même manière, comme les niaoulis, les arbres qui s'écroulent d'eux-mêmes quand ils sont trop vieux. Et de là surgira un nouveau monde de bonheur, qu'elle n'est pas capable de décrire mieux que ça, si vous voulez, elle ne donne pas de précision. Mais évidemment, il ne faut pas qu'il y ait d'État. Hein. Elle est anarchiste, donc ce qu'elle condamne, c'est l'État sous toutes ses formes.
On l'a appelée la Vierge Rouge. Est-ce qu'elle a, je crois que oui, elle a côtoyé Jules Vallès?
Oui, elle l'a côtoyé, bien sûr, mais pas tellement. Hein. Je vous dis, elle n'a pas tellement côtoyé les écrivains. Ensuite, quand elle est arrivée en France en 1880, elle était célèbre parce que pendant toute l'année qui a précédé sa venue, comme c'était une femme intransigeante qui prenait toujours la défense des autres avant de la prendre pour elle-même, elle est devenue une sorte de symbole, justement, de la force des communards. Et tout de suite, elle a été, je dirais, enrôlée par les différentes écoles. Alors, à l'époque, il n'y a pas les communistes, les socialistes, les partis ne sont pas encore constitués. Hein. Ce sont des groupuscules extrêmement nombreux. Et donc, elle a accepté de parler dans des conférences pour approprier tous les groupes pendant longtemps, pour prêcher le renversement du monde, appeler à la mort des gouvernants, parce qu'elle était extrêmement violente. Et elle attirait des milliers de personnes, ou au moins des centaines. Elle faisait plusieurs conférences par jour. Elle menait une vie... Elle se consacrait à ça. Hein. Et puis, elle rentrait chez elle. Elle avait ses chats, parce que les chats, elle avait même rapporté de Nouvelle-Calédonie qui avait les dents pointues. Hein. Et puis, elle écrivait des poèmes la nuit. Elle mangeait du pain, du café. Elle donnait tout aux pauvres qui venaient la solliciter. Et elle s'occupait de sa mère.
Alors, je rappelle le titre de votre biographie, Louise Michel, donc sous la plume de Marie-Hélène Bellac, qui est aujourd'hui devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion. Quelle a été la vie affective, amoureuse de Louise Michel? Y a-t-il eu un homme ou des hommes dans sa vie?
Il y a eu sans doute un homme qui s'appelait Théophile Ferré, qui était un compagnon de lutte pendant la Commune. On pense que son amour a été platonique, hein, ça n'a pas été plus loin. Et lui, il a été exécuté à la fin de la Commune. Et elle voulait d'ailleurs, elle appelait à ce qu'on la tue elle aussi. Et toute sa vie, elle a porté des œillets rouges sur la tombe de Ferré. Et elle, quand elle était en prison, elle avait même fabriqué un petit œil en tissu pour lui envoyer. Et ça a été le grand amour de sa vie. Ensuite, elle a eu sans doute des compagnes, notamment une femme qui s'appelait Charlotte Vevel, qui s'occupait d'elle une grande partie de la fin de sa vie.
Elle meurt en 1905. Il est dit que Jules Vallès, avant de mourir, aurait dit « j'ai beaucoup souffert ». Est-ce que Louise Michel aurait pu dire, elle aussi, sur son lit de mort, avant le dernier souffle, « j'ai beaucoup souffert » ?
C'est très intéressant comme question, parce que Louise Michel, en fait, est à la fois une grande optimiste et une pessimiste noire. Toute sa vie, et surtout après la mort de sa mère, elle a dit « je suis vouée à la révolution, je suis vouée à la mort. Je suis prête à mourir tout le temps ». Mais ce n'est pas vouloir dire que j'ai beaucoup souffert, vous voyez, c'est différent. Elle se voue, elle est prête à se sacrifier, elle n'a pas le sentiment de souffrir pour les siens, vous voyez, elle ne souffre pas pour les siens, elle fait tout ce qu'elle peut. C'est pas du tout la même chose.
Si je vous demandais de citer allez, 3 ou 4 adjectifs qui définiraient bien la psychologie, l'esprit de Louise Michel, qui est quand même une femme étonnante à mon sens.
Alors, je dirais passionnée, extrêmement droite et fidèle à ses idées et charitable.
Et quelles seraient les continuatrices, en France ou ailleurs, d'une Louise Michel? Aux quatre coins du monde, par exemple.
Moi, je crois qu'il n'y en a pas eu, parce qu'il y a eu des féministes, mais Louise Michel est pour la condition de la femme à égalité avec l'homme. Elle ne veut pas, par exemple, que la femme ait des droits politiques. Parce qu'elle ne veut pas que l'homme en ait. Donc, on ne va pas donner le suffrage universel aux femmes. Je vais vous dire honnêtement que je n'en vois pas. Pour moi, c'est un être un peu d'exception. Et en plus, je vous dis, sur la Troisième République, il n'y a pas eu, il n'y a eu aucune. Mais une femme publique, je vous dis, tous les jours, il y avait des conférences. La police la surveillait jour et nuit. C'est quand même, les gens, elle faisait peur aux dirigeants. Par exemple, quand sa mère était à l'agonie, elle était internée à la centrale de Clermont après des grandes manifestations où elle avait été condamnée. Eh bien, on la sortait de la prison la nuit, on l'emmenait en fourgon voir sa mère. Alors que c'est pas un régime de prison normal. Et elle a pu passer les dernières heures avec sa mère à son chevet. Vous voyez, elle est quand même... Et à un moment, elle a failli être mise dans un hôpital psychiatrique. On a dit non, parce que ça va poser trop de problèmes. On l'a laissé partir en Angleterre. Vous voyez, c'est quand même une femme qui avait une vraie place dans la vie politique, même si ça n'a pas eu d'incidence directe. Et elle n'a pas fait partie des anarchistes, la grande vague anarchiste avec les attentats, en particulier Sadi Carnot qui a été tué par un anarchiste donc à Lyon. Elle a applaudi, mais elle n'a pas participé. Par contre, elle a fait passer sans doute des fonds, elle a aidé, vous voyez, mais pas... Elle n'a pas pris part aux attentats anarchistes.
Elle figurait parmi les auteurs invités lors de la 7e journée du livre d'histoire de Toussy. Le 24 août dernier, vous avez pu entendre Marie-Hélène Bellac, qui signe donc une biographie de Louise Michel aux éditions Perrin, une biographie intime et politique de la Vierge Rouge. Louise Michel, qui est d'abord un nom, celui que portent 190 établissements scolaires de France et bien davantage encore de rues. Un nom idolâtré par la gauche, détesté par la droite, mais dont l'histoire reste méconnue. C'est en tout cas l'avis de cette femme qui meurt donc en 1905 que Marie-Hélène Bellac retrace dans sa biographie. Juste après la virgule musicale que nous allons vous proposer, vous entendrez Mathieu Jaja, qui signe aux éditions Passé Composé un ouvrage intitulé « Dunkerque, la dernière forteresse nazie, 1944-1945 ». Dunkerque, qui est la ville française la plus longtemps occupée et une des dernières du Troisième Reich à capituler après Berlin. En effet, à partir de septembre 1944 et 8 mois durant, la cité portuaire a été transformée en forteresse dont Hitler avait ordonné qu'elle soit défendue coûte que coûte jusqu'à la mort si nécessaire. Alors, cette forteresse allemande est placée sous l'autorité d'un impitoyable vice-amiral Friedrich Frisius qui fait preuve d'un entêtement suicidaire et qui va même jusqu'à ordonner en 1945 une ultime offensive, la dernière sur le territoire français. C'est à découvrir à travers le reportage que nous avons enregistré avec Mathieu Jaja, Dunkerque, la dernière forteresse nazie, 1944-1945. C'est Wagon Livre sur Radio, nous sommes ensemble jusqu'à midi pour ce compte-rendu de la 7e journée du livre d'histoire qui s'est tenue à Toussy le 24 août dernier. Pleasure.
here before. It ain't gonna work no more. I've been here before. It ain't gonna work no more. Oh no 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 more.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
La suite de notre rendez-vous en cette fin de matinée sur Radion consacrée à la journée du livre d'histoire, 7e édition qui s'est tenue à Toussy le 24 août dernier, une manifestation qui connaît un succès grandissant puisqu'on enregistre entre 1200 à 1400 entrées à ce très beau salon qui se tient dans un cadre exceptionnel puisqu'il s'agit de l'église fortifiée de Toussy. Comme je l'avais annoncé avant l'intermède musical, nous allons maintenant entendre Mathieu Jaja, historien, conférencier. Il a dirigé durant plusieurs années le mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises. Il écrit pour plusieurs revues et magazines d'histoire. Et nous l'avons rencontré pour son travail paru aux éditions Passé Composé, qui a pour titre « Dunkerque, la dernière forteresse nazie 1944-1945 ».
Je m'appelle Mathieu Jaja, donc je suis historien de formation et parallèlement à une carrière dans le milieu politique. Donc j'écris quelques ouvrages. J'ai été directeur du mémorial Charles de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises pendant 4 ans. Et donc j'écris des ouvrages aussi bien sur la Seconde Guerre mondiale que sur le cinéma et l'histoire.
Alors, être directeur général du mémorial Charles de Gaulle, qu'est-ce que cela implique dans son action ?
Ça implique beaucoup de choses. J'avais 30 ans quand j'étais nommé directeur, donc j'étais encore un jeune homme. Ça veut dire gérer, diriger un site qui accueille, du moins qui accueillait à l'époque dans les 70 000 visiteurs chaque année. C'est devenir l'ambassadeur de ce mémorial, accueillir des personnalités, assurer parfois des visites guidées, s'occuper de la programmation culturelle, c'est-à-dire mettre en place des expositions temporaires. Il y avait également l'été à l'époque un spectacle de son et lumière. Donc ça nécessite aussi de recruter des saisonniers, de chercher des mécènes pour trouver des financements et d'avoir le plus souvent possible de bonnes idées pour continuer de faire vivre ce lieu emblématique.
Alors vous, on retrouve le mémorial Charles de Gaulle, c'est pas biographique, c'est surtout un bel ouvrage richement illustré chez Artelia Éditions. C'est surtout pour rappeler l'importance, la beauté aussi de ce mémorial et puis qui est aussi un lieu de mémoire à un grand homme.
Exactement. C'est-à-dire, le mémorial Charles de Gaulle, il y a trois dimensions. C'était à la fois un lieu de mémoire, puisque c'est là que se trouve cette fameuse croix de Lorraine qui surplombe toute la campagne au Marnais, qui a été inaugurée il y a plus de 50 ans. C'est un espace culturel avec une scénographie magnifique sur deux étages où on peut se replonger dans l'histoire du XXe siècle à travers le parcours du général de Gaulle. Et c'est également un site touristique donc, qui accueille énormément de visiteurs. Et c'est vrai que c'était à l'occasion du même pas 10e anniversaire de l'existence de ce lieu qu'il était peut-être temps déjà d'en écrire l'histoire. Et c'est ce pourquoi j'ai coécrit cet ouvrage paru aux éditions Artelia en 2017.
Avec Laetitia Debacker chez Artelia Éditions. Maintenant, Mathieu Jaja, j'aimerais que vous nous évoquiez un aspect final hein, de la Seconde Guerre mondiale. C'est paru chez Passé Composé, Dunkerque, la dernière forteresse nazie 1944-1945. Alors, hors micro, nous en parlions. Effectivement, la poche de Dunkerque, on pense plutôt à 1940. Et finalement, dans cet essai, vous montrez que cette ville de Dunkerque est vraisemblablement la dernière ville de France qui a combattu le plus longuement avant la libération de la France, si je ne m'abuse.
C'est un épisode, somme toute, assez méconnu de la dernière année de la Seconde Guerre mondiale. La ville de Dunkerque est effectivement la ville française à avoir connu le plus longtemps l'occupation, pratiquement 5 ans, à quelques mois, à quelques semaines près. Et effectivement, le siège de Dunkerque, quant à lui, a duré 8 mois, c'est-à-dire entre le moment où les armées alliées arrivent à proximité, libèrent déjà le Nord-Pas-de-Calais, arrivent à proximité de Dunkerque en septembre 1944, et néanmoins, une forteresse va se créer, très très bien défendue, aussi bien côté mer et surtout côté terre. Et donc, la forteresse allemande va tenir pendant 8 mois sous la coupe d'un impitoyable officier nazi qui s'appelle le vice-amiral Friedrich Frisius. C'est lui qui va tenir d'une main de maître cette garnison composée d'environ 7 ou 8 000 soldats et qui va donc tenir tête aux alliés, en fait, jusqu'à ce que la fin de la Seconde Guerre mondiale, jusqu'à ce que l'effondrement du Troisième Reich en Allemagne ne l'oblige également à déposer les armes.
Donc vraisemblablement des combats inutiles et des morts et des pertes inutiles.
Absolument. Et cependant, 8 mois, beaucoup de souffrance avec, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres que j'aborde dans mon livre, la recrudescence des désertions. Beaucoup de soldats allemands veulent déserter et pour ceux qui n'y parviennent pas, qui se font reprendre, ils sont impitoyablement jugés et parfois pour certains d'entre eux pendus haut et court alors qu'on est à quelques semaines de la fin de la guerre. Ça n'a plus aucun sens.
La ville de Dunkerque, a vraisemblablement eu à souffrir en termes d'immobilier, de destruction, comme beaucoup d'autres villes de France. Il y a le Dunkerque actuel est un Dunkerque reconstruit après-guerre.
Complètement reconstruit d'après-guerre, parce que c'est une des villes les plus sinistrées au sortir de la guerre, mais avec une configuration différente de ce qu'était Dunkerque avant la guerre. C'est une ville qui est beaucoup plus tournée vers la terre qu'elle ne l'était vers la mer. On modifie complètement l'urbanisme. Des grands boulevards sont créés, on élargit les rues. Donc c'est plus comparable avec la ville telle qu'elle était auparavant, avec une architecture évidemment moderne, semblable à ce qui s'est produit au Havre après la guerre. C'est en fait la naissance de ce qu'on va appeler par la suite le Grand Dunkerque.
Mathieu Jaja, je rappelle donc Dunkerque, la dernière forteresse nazie 1944-1945. Et alors chez Privat, alors là c'est très original et ça va intéresser beaucoup de nos auditrices et auditeurs. Vous êtes penché sur le personnage de cet acteur très aimé des Français, Louis de Funès, la traversée du siècle. Mathieu Jaja, d'abord, quel lien avez-vous sentimentalement avec les comédies de Louis de Funès?
Je serais tenté de dire, comme 60 millions de Français ou pas loin, je suis un admirateur de Louis de Funès, de cet illustre acteur. J'ai voulu coupler à la fois mon admiration pour l'acteur, mon amour du cinéma et ma formation d'historien. Et donc, l'angle original, je pense, de cette biographie, c'est d'aborder en somme la vie de Louis de Funès, mais plus encore que tout, la filmographie de Louis de Funès, à la lumière des événements du XXe siècle, et de montrer en fait à quel point les films qu'il a tournés, notamment sous les années de présidence du général de Gaulle, de Georges Pompidou, dans une moindre mesure de Valéry Giscard d'Estaing, sont le reflet de cette époque sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan sociétal. Et finalement, quand on se donne bien la peine de regarder, je dirais de façon subliminale, ces films, on y découvre beaucoup, beaucoup d'aspects qui ne nous auraient peut-être pas sauté aux yeux de prime abord. Et c'était en fait l'angle que j'ai vraiment voulu choisir pour apporter une touche plus originale à cette biographie de Louis de Funès.
Parce que finalement, la quatrième de couverture souligne que, par exemple, le film La Grande Vadrouille, on a un Louis de Funès qui ridiculise l'occupant allemand. Vous parlez aussi de la déesse. Et il incarne le chef d'entreprise d'une France conquérante, une France un peu pompidolienne également. Vous parlez de Rabbi Jacob, où effectivement, Louis de Funès, au départ raciste, finalement met un peu d'eau dans son vin et devient beaucoup plus tolérant. C'est effectivement un angle extrêmement intelligent et fin.
Alors oui, effectivement, il incarne un peu le monde trépidant des affaires parce qu'on est dans les années 60, qui a ces petits industriels qui ont le vent en poupe. Et effectivement, se moquer des Allemands alors qu'au même moment, le général de Gaulle entame le processus de réconciliation avec l'Allemagne, c'était un petit peu osé. On n'est que 20 ans aussi après la fin de la guerre. Quant à Rabbi Jacob, on a tendance à l'oublier, le racisme commence à croître de façon très sensible à partir du début des années 70. Et le film Rabbi Jacob, c'est pour faire prendre contre-pied de ce racisme. Alors, en plus, le hasard a voulu que le film sorte au moment où éclate la guerre du Kippour, ce qui n'a pas arrangé non plus les choses, ce qui n'a pas empêché d'ailleurs le film d'obtenir un très gros succès commercial. Mais effectivement, Louis de Funès, qu'il ne l'ait pas choisi au début, mais plus encore par la suite quand il devient une star, une énorme vedette du moins, accepte de tourner des films dont les scénarii s'inscrivent totalement dans cette époque des années 60 et 70. On voit le paquebot Le France, qui est quand même l'archétype même de la grandeur de la France qui apparaît dans le film Le Gendarme à New York. On aperçoit le Concorde dans le film Hibernatus. C'est pareil, c'est l'apogée des Trente Glorieuses. Et lui, donc, devient le porte-étendard de ces Trente Glorieuses à travers ses films.
Un petit mot sur le film L'aile ou la cuisse?
En fait, effectivement, à partir de L'Aile ou la cuisse, c'est la renaissance de Louis de Funès. Il vient d'échapper à un double infarctus. Et à partir de là, c'est lui qui vient même jusqu'à choisir les thématiques des films dans lesquels il a envie de tourner. C'est pas lui qui écrit les scénarios, mais il choisit les thématiques. Bah, L'Aile ou la cuisse, c'est l'époque de la malbouffe, comme on dit. Donc il veut montrer qu'on peut défendre aussi une gastronomie de qualité face à ces restaurants d'autoroute, on va dire. Ensuite, un film comme La Zizanie, la défense de l'environnement. La soupe aux choux, la défense de la tradition. C'est vraiment lui qui impose ces thématiques parce qu'elles lui sont chères, en fait. Et il souhaite absolument les présenter dans ses films.
Mathieu Jaja, enregistré le 24 août dernier lors de la 7e édition du Salon du Livre d'Histoire à Toussy, je vous confie la référence de l'ouvrage consacré à Louis de Funès. Louis de Funès, la traversée du siècle, c'est aux éditions Privas avec une préface de Laurent de Funès. Louis de Funès, disparu en 1983, qui a joué dans 18 pièces de théâtre et qui a tourné 157 films, dont 45 dont il occupa le premier rôle. Évidemment, on peut rappeler quelques titres des films avec Louis de Funès, La traversée de Paris, Pouic Pouic, la série des gendarmes de Saint-Tropez, la trilogie Fantomas, Le Corneau, Le Grand Restaurant, La Grande Vadrouille, Le Petit Baigneur, Les Aventures de Rabbi Jacob, L'Aile ou la Cuisse, La Zizanie, La Soupe aux Choux. En tout cas, redécouvrez la vie et l'œuvre cinématographique et artistique de Louis de Funès dans l'ouvrage de Mathieu Jaja, qui a aussi évoqué la ville de Dunkerque dans son essai intitulé « Dunkerque, la dernière forteresse nazie, 1944-1945 », c'est aux éditions Passé Composé. Nous allons marquer un nouvel intermède musical et ensuite nous nous tournerons vers Clotilde Chamussy et Thomas Pacotte que nous avons rencontrés et enregistrés lors du Salon du Livre d'Histoire de Toussy le 24 août dernier pour leur essai « La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années ». C'est un livre paru aux éditions Robert Laffont. On se retrouve juste après. Je vous rappelle que c'est Wagon Livre, votre émission littéraire sur Radio.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Poursuivons, si vous le voulez bien, le compte-rendu de la journée du livre d'histoire, 7e édition Tous historiques, qui s'est tenue le samedi 24 août dernier dans l'église fortifiée de Toussy, un lieu exceptionnel et particulièrement original qui a accueilli une quarantaine d'auteurs, dont des bédéistes, mais aussi des auteurs jeunesse. Et parmi les auteurs invités, nous avons rencontré Clotilde Chamussy et Thomas Pacotte qui signent deux ouvrages. D'abord, 49 petites histoires dans l'histoire de l'Antiquité. C'est aux éditions de Boeck, paru en octobre 2023. Et leur essai le plus récent est disponible, lui, aux éditions Robert Laffont et a pour titre « La grande histoire du climat, comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années ». Je vous propose d'écouter ce reportage enregistré le 24 août dernier à l'occasion de la 7e édition de la Journée du livre d'histoire à Toussy.
Donc je suis Clotilde Chamussy, je suis archéologue de formation et j'ai ouvert une chaîne de vulgarisation scientifique en archéologie qui s'appelle Passé Sauvage et je publie aussi des livres d'archéologie.
Merci Clotilde. Lucas Pacotte, qui êtes-vous Lucas? Est-ce que je peux vous demander de vous présenter aux auditrices et auditeurs de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion?
Eh bien, je suis aussi archéologue de formation. Moi, j'ai étudié la préhistoire et je suis devenu, après avoir fouillé longtemps, je suis devenu enseignant d'histoire-géographie et j'écris. Donc, j'écris pour les vidéos de la chaîne YouTube Passé Sauvage et j'écris aussi avec Clotilde des livres.
Alors, 49 petites histoires dans l'histoire de l'Antiquité. Quel est le principe de cet ouvrage? Quelle en est la vocation, Clotilde?
Alors, c'est le livre qu'on aurait voulu avoir en première année d'archéologie, en première année de licence avec Lucas. Un livre qui nous présente les grands événements, les grands personnages de l'histoire de l'Antiquité, sans avoir forcément le temps ou la motivation de demander à nos enseignants à la faculté.
Parce qu'ils considéraient que c'était peut-être une culture qui devait être acquise.
Exactement.
Les humanités, d'une certaine manière.
Exactement, mais en même temps, il faut avoir un ouvrage qui condense, qui synthétise la bibliographie la plus récente et la plus scientifique pour expliquer toutes ces petites histoires. Donc voilà, après, c'est notre travail de vulgarisateur de synthétiser ça et de les rendre accessibles.
Alors, je partage quelques titres du sommaire de l'ouvrage dont je rappelle le titre, hein, 49 petites histoires dans l'histoire de l'Antiquité. Attila, le fléau de Dieu. Comment Pompée débarrassa-t-il la Méditerranée des pirates? Spartacus, le songe de Constantin. Vercingétorix dépose les armes, etc., etc. C'est particulièrement riche. Par exemple, la formule Carthago d'Hélène d'Aeste, il faut détruire Carthage. Qui veut en parler, Lucas?
On a comme ça des locutions latines. Alors, on en a mis quelques-unes. Il y a évidemment « il faut détruire Carthage », il y a « aller à Jacta Est », on a des choses comme ça. On a « Eureka » aussi pour le grec. Et donc, c'est des éléments qu'on connaît parfois sans les connaître, dont on croit avoir les différents éléments. Donc, l'occasion, c'est de les redécouvrir en allant, nous, on est allé voir les sources antiques, on est allé voir ce qu'en disent les historiens et les archéologues. Et puis, on en fait une narration qui est... qui doit rester assez courte, assez plaisante, mais très véridique, qui colle aux faits et qui présente ces événements. Donc ça se lit comme des pastilles. Les chapitres sont assez courts, ça peut se picorer. On les a volontairement mis dans le désordre chronologique aussi pour avoir cet aspect comme ça de miscellanée qu'on peut aller piocher. Alors faut rassurer les lecteurs, il y a quand même de la chronologie à chaque début de chapitre et puis une longue frise à la fin qui récapitule tous les chapitres. Il y a des éléments de cartographie, on n'est pas perdu, on n'est pas laissé abandonner dans tous ces siècles de l'Antiquité, mais des choses connues comme il faut détruire Carthage, aller à Jacta Est, puis des choses qui le sont beaucoup moins et qui sont l'occasion d'être découvertes, le mécanisme d'Anticythère par exemple, des choses très étonnantes de l'Antiquité et qui valent le coup d'être connues.
Et vous, Clotilde, une petite préférence, un coup de cœur parmi ces personnages ou ces événements de l'Antiquité?
Eh bien, tout à l'heure, on parlait de ça avec des lecteurs. C'était la Césarienne. La Césarienne, donc, qui évoque le nom de César. Et est-ce que César est né par Césarienne? Et donc ça, c'est vraiment un mythe qui perdure toujours. La Césarienne n'existe pas à l'Antiquité. Ce serait beaucoup trop dangereux pour les femmes. Il n'y a pas... Il n'y a pas de biseptine, hein, à l'époque, on ne peut pas assurer voilà, la protection des corps. Donc voilà, ça c'est un chapitre qui m'intéresse particulièrement, et quand les gens ouvrent le livre, ils nous en parlent, leur œil s'arrête sur ce titre-là.
Alors vous,
c'est évocateur.
Clotilde et Lucas, vous vous frottez aussi personnage, chapitre 14, pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? C'est peut-être un peu délicat, là.
Surtout dans une église, mais voilà, on est au cœur de l'histoire. Bah oui, en fait, on a la version. C'est assez difficile d'avoir des sources. Alors la source primaire, c'est quand même la Bible, le Nouveau Testament, hein, qui relate la vie de Jésus de plusieurs manières différentes. Et puis on a des écrivains quand même contemporains, des événements qui relatent les révoltes, cet esprit messianique qui existe en Judée à l'époque. Et finalement, essayer d'avoir un regard très historien et dépassionné sur la question. Et ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression, nous, que Jésus, finalement, c'est quelqu'un qui est un martyr parce que religieux, parce que dérangeant les Romains avec leur religion, avec leur empereur. En fait, pas du tout. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les sources antiques et puis les gens qui sont crucifiés à l'époque, c'est des rebelles. Et Jésus, il présente une menace pour le pouvoir politique en Palestine. Les Romains ont peur qu'il se proclame roi des Juifs, ont peur d'une nouvelle révolte des Juifs de Judée, comme il y en a déjà eu, comme il y en aura après. Et donc, finalement, il est traité comme un opposant politique. Et c'est quelque chose qu'on a oublié aujourd'hui.
Et l'archéologie, par exemple, par rapport à des lieux bibliques, qu'est-ce que vous pouvez en dire ?
C'est pas une question qu'on a beaucoup explorée dans ce livre, puisque finalement le christianisme il est abordé à quelques moments avec le songe de Constantin, avec des épisodes aussi où on relate éventuellement des martyrs des chrétiens ou de l'incendie de Rome. L'archéologie biblique, elle existe et ça a été une grande motivation pour certains archéologues au 19e siècle, tout comme certains lisaient les épopées d'Homère et voulaient retrouver les villes de Mycène et de Troie. Et bien d'autres archéologues, beaucoup des Américains, quelques Européens aussi, mais sont partis à la recherche des lieux qui étaient cités dans la Bible. Ouais, ça a été un aiguillon pour la recherche en archéologie au 19e siècle, début du 20e siècle.
Clotilde Chamussy, voulez-vous compléter ce que Lucas Pacotte vient de dire à notre micro ?
Là, comme ça, je ne sais pas.
Alors, je ne voulais pas vous piéger. Alors, dans ce cas, j'enchaîne. Pour vous mettre totalement à l'aise, j'enchaîne avec votre second ouvrage, paru chez Robert Laffont et qui a pour titre « La grande histoire du climat », sous-titré « Comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années ». Nous avons eu des épisodes météorologiques extrêmement étranges. Tantôt, nous souffrons de canicule. Tantôt, on est en plein été, on se croirait à l'automne. Faut-il s'inquiéter ? Et est-ce que ce genre d'événements se sont déjà produits dans le passé, dans l'histoire ? C'est un peu le sens de votre ouvrage, si j'ai bien saisi.
Oui, tout à fait. Donc, l'ouvrage présente plusieurs crises climatiques que l'humanité a connu, et donc à chaque chapitre on essaye d'expliquer comment les civilisations ont survécu ou non, et évidemment il y a entre ces deux extrêmes des nuances et des adaptations qui ne se font pas toujours sans douleur. Je pense notamment à l'Égypte antique, c'est un des chapitres de ce livre. Ensuite, oui, nous avons tout à fait des raisons de nous inquiéter pour la suite, et c'est ce que montre ce livre, c'est-à-dire qu'en effet, le climat a toujours varié, et on explique qu'est-ce qui fait varier le climat, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, et le but, c'est d'expliquer que cette fois-ci, c'est différent.
Je me réfère à la quatrième de couverture. Il y a toute une série d'interrogations. Comment le climat donc a-t-il guidé l'évolution de notre espèce ? Comment les Européens ont-ils survécu à la glaciation il y a 20 000 ans ? Comment les Égyptiens ont profité de l'assèchement du Sahara ? Pourquoi les Romains étaient-ils des enfants gâtés du climat ? Pourquoi les Romains, enfants gâtés du climat ?
Pendant la période de l'apogée de Rome, alors qu'on peut caler grosso modo entre le 2e siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après, hein, voilà, c'est la fin de la République, c'est le début de l'Empire romain, c'est là où se passent les grandes conquêtes, c'est là où les Romains aménagent le territoire, s'implantent partout, fondent les villes qu'on connaît. Eh bien, en fait, les climatologues ont montré, les paléoclimatologues, ceux qui s'intéressent au climat du passé, ont montré que c'est une époque qui correspond en fait à un optimum solaire, c'est-à-dire une époque où le soleil était un petit peu plus actif qu'aujourd'hui. Alors ça, on le sait comment ? On le sait grâce au prélèvement qu'on fait dans les glaces, les carottes glaciaires, notamment du Groenland et de l'Antarctique, grâce à des isotopes, c'est de la chimie, et on arrive à reconstituer l'activité solaire, et on voit que les Romains ont bénéficié pendant 4 siècles d'un climat un petit peu plus chaud, un petit peu plus humide, ce qui permet par exemple le cas emblématique qu'on cite souvent, c'est l'implantation de la vigne en Grande-Bretagne. C'est-à-dire que les Romains arrivent et plantent du blé, plantent des marronniers. En Turquie, on le voit quand ils vont dans des régions en altitude, ils implantent la vigne et l'olivier à des endroits où ils ne poussent plus aujourd'hui. Ils vont chercher des ressources en eau en élevant des aqueducs dans des régions qui sont aujourd'hui très sèches. Donc on a comme ça tout un tas de traces et d'éléments qui nous montrent que en fait, les Romains ont bénéficié d'une fenêtre climatique particulièrement propice, en tout cas très abondante en eau, et on sait que les Romains en faisaient grand usage, que ce soit pour leurs terres, mais aussi pour l'irrigation des terres. Ils pouvaient ravitailler des millions de personnes dans leur ville grâce à de grandes productions céréalières. Donc ils ont bénéficié d'une période très, très favorable. Donc c'est pour ça qu'on peut les appeler, d'une certaine manière, des enfants gâtés du climat qui ont favorisé leur conquête et permis l'essor de cette civilisation.
Alors, question qui va intéresser un grand nombre de nos auditrices et auditeurs, vers quoi nous mène la hausse des températures ? Est-ce qu'il y a vraiment, il y a véritablement réchauffement de la planète ? C'est indéniable, incontestable. Parce qu'il y a les climato-sceptiques, il y a des climato...
Relativistes, bien sûr. Alors nous, on a fait...
Vous êtes des climato-sceptiques ?
Non, pas du tout. Et ce livre est un petit peu... On prend au pied de la lettre les arguments... des climato-sceptiques pour essayer de leur dresser des cartes, des schémas avec des mesures qui sont peut-être pas assez vulgarisées, pas assez mises en lumière, mais notamment la courbe du CO2 en corrélation avec les années, avec la chronologie, et on voit nettement, c'est pas une hausse, c'est un pic qui est très très net et qui est dû à l'activité humaine. Donc ensuite, dans le dernier chapitre, on évoque des leviers d'action, puisqu'il y en a. Le livre n'est pas pessimiste, il propose de se mettre au travail avec des leviers d'action qui touchent évidemment l'agriculture, les déplacements. On n'est pas trop dans la logique des petits gestes, parce que nous, on essaye de proposer une histoire, une grande histoire, donc on reste aussi dans des solutions à grande échelle. Mais c'est indéniable que le changement climatique est une véritable crise.
Mais que l'humanité a déjà connu dans le passé. Est-ce que l'utilisation de cet argument du réchauffement de la planète, est-ce que c'est un argument aussi dont certains pouvoirs ou gouvernements ou chefs d'État peuvent utiliser pour faire peur à la population ?
Je sais pas. Je pense que les gouvernements, les chefs d'État sont plutôt dans la minimisation du risque que dans l'excès inverse. C'est-à-dire que ceux qui ont vraiment ceux qui tirent la sonnette d'alarme, ce sont les scientifiques et sont pas assez écoutés. C'est pas du tout eux qui sont au pouvoir et qui mettent en place les mesures. Si on écoutait les scientifiques, on aurait changé d'échelle déjà dans beaucoup de choses. Non, ce qui est important de voir avec ce livre, c'est qu'il donne les clés normalement pour comprendre et pour se faire une idée par soi-même, dans le sens où on aura les notions clés qui sont expliquées en introduction, qui sont normalement expliquées de la manière la plus pédagogique possible, avec des cartes et des schémas, comme le disait Clotilde, et puis d'avoir cette histoire au long cours. En fait, c'est en ayant cette perspective de très longue durée qu'on comprend que cette fois-ci, c'est différent. Parce que l'un des arguments des climato-sceptiques, qui est vraiment éculé, c'est de dire que ça a toujours changé, donc ça change une fois plus, et après tout, circuler, il n'y a rien à voir, c'est pas très grave. Avoir compris comment change le climat naturellement, c'est comprendre aussi pourquoi cette fois-ci, c'est très différent, c'est à une autre échelle. Ça implique pas quelques milliers de chasseurs-cueilleurs dans une Europe de l'âge de glace, ça implique 8 milliards de personnes dans les prochaines années qui viennent. Donc on change d'échelle, et cette perspective, elle est nécessaire, parce que si on parle que du changement actuel, si on évoque que effectivement l'action humaine, on peut peut-être pas se rendre compte que effectivement les changements du passé avaient lieu plus lentement, avaient lieu naturellement, sont réversibles, sont l'état de cycle. Nous, on a brisé les cycles de glaciation, de déglaciation, qui sont naturels, qui ont lieu depuis 2,5 millions d'années. les scientifiques aujourd'hui nous disent qu'ils sont terminés. L'action humaine y a mis fin. Il n'y a jamais eu 410 parties par million de CO2 dans l'atmosphère. De l'histoire humaine, il n'y a jamais eu ça. On a créé en fait un état climatique inédit. Donc on ne sait pas encore exactement ce qui va se passer. On a quelques pistes, on les explique. On n'a pas le fin mot de l'histoire, évidemment, mais on est dans quelque chose d'inédit. Ça, c'est absolument capital de le rappeler, surtout quand il y a effectivement des discours vulgarisés qui disent le contraire sans citer leurs sources. Nous, l'un des vraiment le travail principal qu'on a fait, et je voudrais insister là-dessus, c'est un travail de lecture de la bibliographie la plus récente, scientifique, des grandes revues internationales, en paléoclimatologie, en climatologie actuelle, en archéologie, en histoire. Et toutes ces sources, elles sont disponibles à la fin du livre. Une grande majorité sont disponibles sur Internet en les téléchargeant, parfois avec des abonnements aux revues, mais beaucoup gratuitement maintenant. Donc on peut aussi aller se faire une idée avec des vrais arguments, avec des vrais faits scientifiques. Et voilà, ça c'est le, je dirais, la plus-value de ce livre par rapport à peut-être des récits qui sont un petit peu plus flous. Voilà, la question des sources et de la scientificité.
Vous venez d'entendre Clotilde Chamussy et Thomas Pacotte pour deux de leurs ouvrages qu'ils présentaient et dédicaçaient à la 7e édition de la Journée du Livre d'Histoire de Toussy. J'en rappelle les références. D'abord chez De Boeck, 49 petites histoires dans l'histoire de l'Antiquité et la grande histoire du climat, sous-titrée Comment les humains s'adaptent depuis 3 millions d'années, c'est aux éditions Robert Laffont. On va marquer un nouvel intermède musical dans notre wagon livre sur Radion. Juste après, nous entendrons Emmanuel Maury, auteur du roman secret de Chantilly, paru aux éditions Perrin. Le château de Chantilly qui attire plus de 500 000 visiteurs chaque année et qui a donné lieu à de nombreuses publications sur son architecture, son fameux musée Condé, son parc, ses chasses, son domaine hippique ou certains de ses personnages iconiques comme le grand Condé, le duc de Bourbon ou le duc d'Aumale. Alors ce château de Chantilly a vu défiler certains de nos plus grands monarques, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV ou Louis XV, mais également des figures illustres comme Anne de Montmorency, le célèbre mécène de la Renaissance, le grand Condé, le nôtre, Molière, La Fontaine, Racine, Bossuet, Madame de Sévigné, Buffon ou la comtesse du Barry, mais aussi des personnages moins connus comme Vatel, au destin moins extraordinaire. En tout cas, ce château est devenu un lieu unique, deuxième musée d'art français après le Louvre, avec une des plus belles bibliothèques de France et un parc d'exception. On redécouvrira ce château à travers son architecture et son histoire grâce à un reportage avec Emmanuel Maury, juste après la virgule musicale que nous vous proposons. Si vous venez de prendre notre émission en cours de route, eh bien c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radion, et nous sommes ensemble jusqu'à midi.
Wagon Livre, votre émission littéraire.
Retour à travers des reportages sur la 7e édition de Toussy Historique, journée du livre d'histoire qui s'est tenue à l'église Saint-Pierre de Toussy le 24 août dernier. Une quarantaine d'auteurs présents, dont le président du salon, Patrice Duhamel, le journaliste, et une invitée d'honneur, Nathalie Saint-Cricq, éditorialiste à France 2. Une manifestation qui connaît un véritable succès. On enregistre entre 1000 à 1400 visiteurs en une seule journée. Et puis parallèlement aux auteurs présents, je voudrais mentionner un certain nombre d'associations ou d'éditeurs, notamment l'association du Vieux Toussy, l'association Puiset Sauvegarde et Développement, l'association Pierre Larousse, parce qu'il ne faut pas oublier que Pierre Larousse est né à Toussy en 1817, qu'il a été instituteur, lexicographe, éditeur, journaliste, imprimeur. Et puis ensuite, vous le savez, il a voulu porter son siècle sur ses épaules à travers son grand dictionnaire universel. La ville de Toussy a d'ailleurs inauguré en 1994 un monument à la gloire de ce lexicographe de génie, devenu le plus illustre enfant du pays. Mentionnons aussi la pyramide du Loup qui participait à ce Toussy historique et les éditions Poisson d'or qu'a créé Christophe Guay, qui a réédité notamment Voyage en Bourgogne de Robert Desnos, qui a réédité un ouvrage presque inconnu de Raoul Toscan intitulé À l'hôtel du Lion d'or, Vézelay 1900, et plus récemment Un maquis dans la ville de Robert Bucheton, sous-titré Contribution à l'histoire de l'occupation allemande à Clamcy et dans la région 1940-1944. Robert Bucheton et ses camarades qui se sont considérablement investis dans les réseaux de résistance de Clamcy. C'est une édition d'ailleurs enrichie et complétée avec une introduction de Jean Vigreux et une préface de Joseph Laudet. La suite de notre compte-rendu de Toussy historique, je vous propose d'entendre Emmanuel Maury qui signe aux éditions Perrin le roman secret de Chantilly.
Je suis Emmanuel Maury, je suis haut fonctionnaire et écrivain et historien. Et je suis ici notamment pour le roman secret de Chantilly, 1000 ans d'histoire de France, qui a été publié il y a 2-3 mois et qui raconte l'histoire de ce merveilleux château, ce lieu unique qui est le château de Chantilly et son rôle dans l'histoire de France, qui n'a pas été mince, qui a un rôle assez conséquent, au point d'ailleurs que quasiment tous les rois de France, à partir de François Ier, ont adoré ce château et même parfois se le sont approprié comme Louis XIII ou Louis XIV.
Il est vrai que personnellement, je l'associais surtout au grand Condé, celui qui a mené la fronde des princes, la bataille de Rocroi, qui ensuite s'allie aux Espagnols et qu'on a souvent considéré comme un traître, mais qui était un peu le chouchou des chefs militaires de Louis XIV. Plusieurs donc habitants dans ce château de Chantilly.
En fait, le château a connu 5 grandes dynasties. On connaît le grand Condé, bien sûr, mais on connaît aussi le duc d'Aumale, qui est celui qui a fait de Chantilly ce qu'il est en termes de collection, puisque aujourd'hui Chantilly est le deuxième musée d'art français après le Louvre, et que c'est le duc d'Aumale qui a reconstruit le grand château. Donc on doit beaucoup au duc d'Aumale. À l'époque du duc d'Aumale, tout Paris tout le monde des lettres et des arts, et même des académies, et même des têtes couronnées, se retrouvaient à Chantilly. Donc, il y a le Grand Condé. Alors, le Grand Condé, ce qu'on peut dire aussi, c'était donc, évidemment cousin et rival de Louis XIV, et qui avait instauré à Chantilly un véritable anti-Versailles, une cour avec une très grande liberté d'esprit, où on retrouvait les plus grands esprits du temps, Molière. D'ailleurs, Molière a joué une grande partie de ses pièces à Chantilly. La Fontaine, La Bruyère, Bossuet, Malebranche, Le Nôtre, bien sûr. Et donc, il a créé une société d'une très grande liberté d'esprit, alors qu'à Versailles, l'étiquette était extrêmement rigide. Mais il y a eu aussi... au Moyen-Âge, les bouteillers de senlis, qui avaient une fonction importante, puisqu'ils avaient comme rôle de s'assurer de l'approvisionnement du roi en vin, en boisson, et donc de s'assurer qu'il ne soit pas empoisonné. Puis après, les bouteillers ont joué un rôle beaucoup plus important sur le plan juridique, ils attestaient des chartes, etc. Ils géraient une partie du domaine royal. Il y a eu donc les bouteillers de senlis, puis il y a eu les Orgemont, Pierre d'Orgemont, qui est le bâtisseur du premier château de Chantilly au XIVe siècle et qui a été le chancelier du roi Charles V, donc son ministre de la Justice, qui a joué un rôle très important, notamment dans la reconquête du territoire français pendant la guerre de Cent Ans. Et puis, il y a eu les Montmorency, il ne faut pas les oublier, notamment Anne de Montmorency, peut-être le plus grand mécène de son temps. Enfin, bien sûr, il y a eu François Ier à la même époque, mais Anne de Montmorency était quand même à la tête de plus de 600 fiefs, de 130 châteaux, de plusieurs hôtels particuliers parisiens. Il a défendu des artistes comme Jean Goujon, comme Bernard Palissy. Donc il reçut tout ce qui comptait à l'époque dans son château de Chantilly, notamment Charles Quint. Donc il y a eu les Montmorency, et notamment Charlotte aussi de Montmorency, qui a été le dernier amour, la dernière passion d'Henri IV. Qui a failli provoquer une guerre entre la France et les Pays-Bas espagnols. Et puis après eux, les Condés. Donc on a parlé du Grand Condé, mais au-delà du Grand Condé, il y a celui qu'on appelait Monsieur le Duc, qui a été le premier ministre de Louis XV et qui a construit notamment les grandes écuries, à qui l'on doit la succession des Bourbons au trône de France, puisque c'est lui qui a trouvé à Louis XIII, qui a d'ailleurs failli mourir adolescent, sa femme Marie Letzinska, et Louis XV, excusez-moi, et donc qui a assuré la descendance des Bourbons. Et puis après lui, il y a eu aussi le prince de Condé, Louis-Joseph, qui a été le chef de l'armée de Condé, et le dernier des Condés, qui a eu une vie tout à fait extraordinaire. Vous savez, c'est celui qu'on a retrouvé mystérieusement mort, pendu à l'espagnolette du château de sa chambre. Cela nous emmènerait dans un récit un peu long, mais il y a toute cette histoire. Et toute cette histoire, d'ailleurs, explique les raisons pour lesquelles le duc d'Aumale a hérité de Chantilly dans des conditions troubles qui lui ont laissé penser qu'il était victime d'une malédiction et qui l'ont conduit à léguer Chantilly à l'Institut de France plutôt qu'à ses neveux, plutôt qu'à sa famille. Donc ça, c'est une autre histoire dans l'histoire.
Vous expliquez aussi cette longue tradition, alors liée à un mode de vie qui aujourd'hui nous fait rêver, longue tradition de chasse, de fêtes, de courses de chevaux et d'élégance, sans oublier la gastronomie.
Oui, alors puisque nous sommes en Bourgogne, c'est vrai que ce qui fait la particularité de Chantilly, c'est pas simplement un lieu chargé d'histoire, 1000 ans d'histoire, 5 dynasties comme je le rappelais, un rôle très important dans l'histoire de France. Ça n'est pas seulement un monument historique connu dans le monde entier, c'est aussi, à la différence d'autres grands lieux comme Chambord, comme Versailles, c'est aussi un lieu de l'élégance française et de la gastronomie, mais aussi des courses. Hein. Vous rappeliez les courses, les chasses. Ce sont parmi les plus belles écuries du monde, avec le musée vivant du cheval, qui est un musée unique également, les courses, la course du jockey club, le prix de Diane avec ses concours de chapeaux, ses élégances, etc. Et puis la gastronomie, c'est vrai, notamment avec le souvenir de la crème chantilly, donc que l'on attribue à tort à Vatel. C'est une légende, c'est une belle légende. Vous savez, Vatel, le contrôleur général de la bouche. Vatel n'était pas cuisinier, contrairement à ce que l'on croit. Il était contrôleur général de la bouche, c'est-à-dire que c'est lui qui organisait les fêtes à Chantilly à l'époque du Grand Condé. Et ce n'est pas Vatel qui a inventé la crème Chantilly. La crème Chantilly a été inventée à une autre occasion. Lui, il servait une forme d'ancêtre qu'on appelait Nevelilatte, qui venait d'Italie. En réalité, la crème Chantilly a été inventée à l'occasion du sacre de Louis XV. Louis XV, de retour de Reims, de son sacre, on avait voulu lui ménager une surprise. Et c'est à l'époque le glacier Procope, celui qui a créé le fameux restaurant parisien, qui est aujourd'hui le plus vieux restaurant de Paris, qui a créé ce dessert qui, à l'époque, se servait glacé, puisqu'il y avait des glacières à Chantilly, des glacières extraordinaires. Il se servait glacé, très sucré. Et puis après, il a été transformé au fil du temps. Il est beaucoup plus léger aujourd'hui, beaucoup plus mousseux. Mais il y a des récits de dégustation de la crème Chantilly, notamment au hameau de Chantilly, qui sont tout à fait savoureux.
Moi, j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur François Vatel. Pour quelles raisons se transperce-t-il le corps d'une épée? C'est parce que le Grand Condé y invite, comme ça, d'un claquement de doigts, Louis XIV et la cour?
En fait, Vatel est peut-être une illustration de ce qu'aujourd'hui on appellerait un burn-out. On l'a prévenu une quinzaine de jours avant. Il savait que le roi devait venir un jour ou l'autre à Chantilly. Il faut rappeler que donc, la rivalité entre Louis XIV et le Grand Condé, qui a conduit Louis XIV à exiler, à pousser le Grand Condé à s'exiler en Espagne et même à prendre le parti des Espagnols. Puis il y a eu le traité des Pyrénées, le pardon. Le Grand Condé a été autorisé à revenir en France et à séjourner à Chantilly, mais le roi gardait une certaine méfiance. Il a fallu plusieurs années pour qu'il revienne et a été décidé un soir de printemps 1571, de le recevoir à Chantilly pour sceller la réconciliation entre les deux grands hommes. Et donc on demande 15 jours avant à Vatel, on lui dit voilà, il va falloir que ce soit des fêtes exceptionnelles pour sceller cette réconciliation, d'autant qu'il y aura 3000 personnes. Donc 3000 personnes à nourrir pendant plusieurs jours, à héberger, à éblouir. Et avec cette subtilité, c'est qu'il fallait éblouir le roi, mais pas trop. Parce que si on avait le souvenir de Fouquet à Vaux-le-Vicomte et où le contrôleur général était à l'époque Vatel. Vatel s'en souvient très bien. Donc il a failli lui-même, comme Fouquet, être emprisonné pour la trop grande magnificence. Alors, il fallait éblouir, mais pas trop. Et donc Vatel est évidemment très, très tendu. Il ne dort. Il reçoit le roi, il dit je n'ai pas dormi. Il n'a pas dormi pendant 15 jours et il voulait que tout soit parfait. C'est le symbole de l'excellence à la française. Alors donc le soir tout se passe bien. Simplement il apprend, parce que le roi est arrivé avec plusieurs centaines d'invités en plus que prévu. Donc il apprend que le rô, c'est-à-dire la viande rôtie, a manqué à deux tables. Il est désespéré. Et puis, il y avait un feu d'artifice qui était prévu sur le Grand Canal. C'est absolument merveilleux. Mais quelques nuages ont masqué le feu d'artifice. Et donc, Vatel en est très, très, très déçu. Et il se croyait déshonoré. Alors, le Grand Condé est venu le voir. Il lui dit, Vatel, écoutez, c'était formidable. Vos cinq services étaient merveilleux. Le feu d'artifice, les fêtes, tout ça, c'était splendide. Vous n'avez aucun regret à avoir. Mais Vatel avait une autre angoisse. C'est qu'il avait prévu pour le lendemain, vendredi de carême, de faire venir du poisson de tous les ports de la Manche. Il fallait des kilos et des kilos de poisson, des charrettes entières. Et donc, tout ça devait arriver à 4 ou 5 heures du matin pour que le poisson soit frais pour les mets du lendemain. Et à 4h et 5h du matin, pas de charrette, ou alors une ou deux charrettes, à moitié vide, non, la marée n'a pas été bonne, etc. Et Vatel s'est vu en manque de poisson, et donc il a attendu, et à 8h du matin, toujours pas de charrette. Et là, il s'est senti déshonoré, mais il y avait le surmenage. Et il sait, c'est ce que raconte dans des lettres qui sont tout à fait saisissantes, la marquise de Sévigné, il s'enfonce trois fois son couteau dans le ventre en s'appuyant contre une porte. D'ailleurs, on se demande comment il a pu réussir ça. C'est du niveau d'héroïsme des samouraïs japonais. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quelques un quart d'heure, une demi-heure après sa mort, son suicide, les charrettes arrivent de tous les ports de la Manche et finalement, Chantilly aura tout le poisson nécessaire et même plus que nécessaire et la fête continuera. Voilà. Et c'est ce que Vatel aurait probablement voulu. Mais c'est par ce suicide qu'il incarne la perfection à la française, le goût de la perfection à la française, de l'excellence à la française, tel qu'on l'a vu d'ailleurs par exemple dans l'organisation de nos Jeux Olympiques. Hein, c'est une forme d'excellence à la française. Et en même temps, c'est ainsi que par ce suicide, car à l'époque le suicide est considéré comme un péché très grave. D'ailleurs, il a été inhumé de façon très discrète, avec une autorisation spéciale du Grand Condé, parce que l'Église ne voulait pas bénir son corps. C'est ainsi aussi qu'il est rentré dans l'histoire et qu'il a fait rentrer Chantilly un peu encore plus dans l'histoire de France.
À l'instant enregistré le 24 août dernier, lors de la 7e édition de la journée du livre d'histoire à Toussy, c'était Emmanuel Maury qui signe aux éditions Perrin le roman secret de Chantilly, avec ce sous-titre passionnant, 1000 ans d'histoire de France. Si vous avez manqué une partie de cette émission, sachez que vous la retrouvez en podcast sur yannickpetit.fr, ainsi que toutes les références des ouvrages dont il a été question. Je voudrais saluer et remercier une fois de plus Anne-Cécile et Jean-François Faure de la librairie Joffac et mes amis Sylvie et Jean-Jacques Ricard qui portent sur leurs épaules l'organisation de cette très belle manifestation qui a su d'ailleurs trouver son public entre 1000 à 1400 visiteurs en une seule journée dans l'église de Toussy. C'est un véritable succès. Bravo aux organisateurs et à tous les bénévoles qui rendent cette manifestation si agréable et indispensable par les temps qui courent. Autre manifestation indispensable, Salon du Livre prestigieux qui se tiendra les 28 et 29 septembre prochains. Il s'agit de Livres en Vigne, 17e édition, avec cette année un président d'exception, en la personne de Jean-Luc Barré, écrivain et éditeur. Jean-Luc Barré qui d'ailleurs travaille à une monumentale biographie de Charles de Gaulle. Et l'écrivain Philippe Besson sera lui l'invité d'honneur. Philippe Besson qui signe aux éditions Julliard un dernier roman intitulé Un soir d'été, un roman qui s'inspire d'ailleurs d'une histoire vécue et qui retrace un drame de la jeunesse de Philippe Besson survenu dans l'île de Ré, un soir de juillet, au milieu des années 80. Il ne me reste plus qu'à vous saluer et à vous remercier de votre écoute et de votre curiosité. Je vous souhaite un excellent congé de fin de semaine et je vous donne rendez-vous samedi prochain, 21 septembre, toujours à 11h sur Radion. Au revoir et à la semaine prochaine. Thank you.